Aujourd'hui, la masterclass de Claude Lévesque avec Nicolas Martin.
Merci beaucoup Claude Lévesque de nous avoir fait le plaisir et l'honneur de venir parler avec nous de votre travail, de ses sources, de vos inspirations, de son évolution à travers le temps. Alors, je ne vais pas me risquer à une biographie complète. J'ai juste choisi quelques petits éléments. Vous me direz si ça vous semble suffisant ou si vous voulez rajouter des choses. Vous êtes né en 1953 à Nevers. Vous avez fait l'école des Beaux-Arts à Bourges. Vous avez rencontré, on peut dire, pris plutôt de plein fouet la scène punk à la fin des années 70, à partir de 1977. Les musiques qui vous accompagnent depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui vont de Einstürzen No Button jusqu'à Aphex Twin, en passant par l'ex-New Wave, la scène française, avec des groupes comme Marquis de Sade. Aujourd'hui, vous avez deux lieux de travail qui ne sont pas vraiment des ateliers, qui sont vos lieux de vie à Montreuil, en région parisienne, et dans la Nièvre. À vous de compléter. Est-ce qu'il faut rajouter des choses à ce petit portrait rapide ?
Non, ça va.
Ça va ? Alors, on va essayer de comprendre avec vous un peu au cours de cette masterclass quel est votre rapport à votre travail et comment il a évolué avec le temps. Quand on va sur votre site qui est très très complet, on voit la toute première œuvre qui figure date de 1976. C'est une acrylique sur papier. Ça veut dire que les premières formes d'expression artistique qui ont été les vôtres, ça a d'abord été de la peinture. À quel moment vous identifiez ce point de départ de votre parcours créatif ?
C'est-à-dire qu'au Beaux-Arts, j'ai pratiqué pas mal d'expériences qui allaient du dessin. J'ai fait beaucoup de dessin, de la peinture, mais pas au sens traditionnel, au sens du mélange, du collage, c'est un peu comme je pratique aujourd'hui, c'est-à-dire en même temps en représentant la réalité, l'irréalité, en jouant sur plusieurs situations, les situations du regard que je porte sur les réalités, puis en même temps des retournements, enfin voilà. Donc je passais un peu par tout ce système-là, j'ai fait un peu de film aussi, et puis la peinture, l'image, tout ce qui a pu constituer comme ça mes premières tentatives, expérimentations dans les années 70, quoi.
Cette peinture, cette acrylique The Secret Life of Arabia, vous avez choisi de la mettre sur votre site, dans votre parcours artistique pour votre œuvre comme point de départ. Vous l'avez choisi volontairement ?
Oui, parce que c'est un petit élément. Il y en a d'autres, mais bon, qui faisait partie un peu d'images idéalistes sur les voyages, sur l'humain, au travers des pays, au travers des civilisations, enfin tout ça, tout ce que la façon dont je voyais un peu ce jeu d'images et de situations, quoi. Oui, c'est un point de départ, puis après ça évolue assez rapidement, vers des médiums comme la photo. J'ai utilisé pas mal la photo au début, pas du tout comme un photographe, ni dans le sens de cette forme d'art, mais plutôt toujours dans un rapport à l'image, photo, mise en scène, répétitive, ou bien faisant part comme ça d'un espace selon la dimension du format, selon la situation de la photo. La photo commence à devenir déjà un peu installation, dispositif, parce que je me suis jamais prétendu être photographe ou me poser des questions de quelqu'un qui traite l'image pour des raisons de documentaire ou de reportage, ou voilà, l'image elle faisait forme en fait pour constituer avec d'autres éléments le départ un peu de mes dispositifs. Je pense au Grand Hôtel,
82, le Grand Hôtel,
et puis après la photographie a toujours existé, ça a toujours été, après elle s'est rangée plutôt comme un élément de repérage, d'observation, que je pratique toujours aujourd'hui pour visiter des lieux, voir des choses, ou bien dans la rue, comme ça, au quotidien, noter. C'est une sorte de carnet de notes. Donc, mais j'ai abandonné un peu cet élément-là dans mes dispositifs, quoi. Mais après, toute la question de l'image peut intervenir autrement, à tout moment. Moi, j'utilise toutes sortes de matériaux, enfin, beaucoup aussi, tout ce qui est lié à la transformation, aux mutations, aux, donc bon, beaucoup d'effets par la lumière, le son, le reflet, enfin toutes sortes de matériaux comme ça qui peuvent faire, qui peuvent affecter les sens, voilà, ou même des fois parfois l'utilisation de l'olfactif. Dans certains de mes parcours, enfin c'est pour résumer à peu près comment les choses se sont à peu près définies. Moi maintenant, à chaque fois, pour chaque projet, j'explore quelque chose de nouveau parce que on propose des lieux très différents, souvent pour des commandes, des projets qui soient des projets éphémères ou pérennes, mais qui à chaque fois m'intéressent. Ça fait partie de mon vocabulaire, la question de des lieux de mémoire, des lieux comme ça qui ont eu un vécu, une fonction. Dans cette fonction, elle reste très présente, comme ça, dans la trace de, du devenir, soit parce que le lieu a été abandonné, désaffecté, a perdu sa, vraiment son, son activité totalement, et puis après reste une sorte de vestige, comme ça, moi, qui m'intéresse à explorer, pour parler de ce qu'il est, puis vite aller vers autre chose aussi dans ce que j'en fais, quoi. J'ai pas une fonction très déterminée par rapport au lieu, ou à la situation de l'art. Moi, j'aime bien naviguer un peu au travers de tout ça, être à la fois dedans, à la fois en périphérie, jamais être dans un carcan d'un système de représentation, d'une école ou de mode aussi. Ça, c'est des choses qui m'intéressent assez peu. Après, on peut rejoindre des regroupements de centres d'intérêt que peuvent avoir de plusieurs artistes au même moment. Et puis, des fois, on peut se mettre aussi en retrait, regarder les choses autrement. Moi, je suis un artiste assez libre.
Quand vous dites à l'instant le regroupement que peuvent avoir les points d'intérêt communs que peuvent avoir les mêmes artistes au même moment, vous vous définiriez justement comme un produit de cette culture de la fin des années 70, de la scène punk. Vous avez l'impression que ça a été une impulsion à un moment donné, au début de votre travail.
Bah, après, tout le monde a des impulsions. Hein. En fait,
quelle a été la vôtre?
La scène punk pour ma génération, enfin telle qu'elle a surgi en Angleterre, aux États-Unis, puis en France, ça a laissé personne indifférent. Ça a joué beaucoup sur les langages, sur enfin toutes les formes d'art, le cinéma, la mode, le milieu du spectacle, et puis les arts visuels. Bon, après, ça a eu une importance. C'est pour ça que moi, c'est vrai que j'évite la nostalgie, puis de m'arrêter, parce que bon, vu l'âge que j'ai, si je commence à me dire, je suis un artiste années 60, 70, 80, après, je vais vraiment, le monde va être derrière moi. Bon, j'ai un peu peur de ça. Donc, j'ai plutôt envie de, après, la filiation au punk, ça m'emmerde. À chaque fois, on me dit,
bon,
c'est super. Bon, moi, je trouve ça super, mais bon, le New Future, les Sex Pistols et tout, bon, ça, voilà, je pense qu'on est un petit peu vers autre chose.
Mais alors, en même temps, vous dites aujourd'hui, dans une interview, vous dites « Je suis devenu aujourd'hui un artiste de variété identifié au passé punk qui me colle à la peau ». Vous avez l'impression
Voilà, c'est un peu pour résumer la réaction que je peux avoir. Je vois qu'on me ressort le passé punk. Bon, moi, j'ai passé l'âge de ce genre de truc, et puis voilà. Après, j'aime pas la variété, donc...
Et vous croyez à la...
Mais après, c'est vrai que l'univers musical compte beaucoup dans mes références,
dans vos installations, voilà.
Ah oui, bien sûr. Non, parce que je fais pas de musique. Lorsque j'amène du son dans mes dispositifs, c'est pas en tant que musique, c'est en tant qu'élément. Je suis pas musicien, je compose rien. Dans tous les éléments que je mets en scène, que je mets en jeu, en fonction comme ça des projets, le son en fait partie, mais c'est pas de la musique. Mais par contre, l'univers musical pour moi est important, quoi. J'écoute beaucoup de musique, je suis assez assez sensible à ce monde-là, comme aussi au monde des images, quoi.
C'est-à-dire que la musique, par exemple, vous accompagne quand vous êtes en train de travailler sur une pièce, sur une installation,
beaucoup,
et elle le détermine, vous le diriez?
Bah, des fois, oui. Ça me donne de l'énergie, ça me stimule, ça me met sur les rails. Voilà, ça projette des choses. Ça fait partie de l'ameublement, enfin, on va dire.
Est-ce que vous croyez, Claude Lévesque, à la notion de vocation? Est-ce que vous êtes dit à un moment donné, vous avez habité ce personnage d'artiste en disant c'est ça, ce sera ça et ça ne sera que ça?
La vocation, après, c'est vraiment, c'est à multiples facettes, parce que bon, j'estime, J'ai pas le don, parce que j'ai horreur de ce terme don, mais c'est impossible. Ça veut dire d'avoir le don. Pourquoi une personne aurait plus ce don d'une autre? Après, il y a des gens qui ont des capacités pour certaines choses, et d'autres pour d'autres. Après, souvent ce que je dis, c'est un peu du folklore de dire ça, mais c'est vrai que c'est... Moi, j'ai pas fait beaucoup d'études. Hein. J'ai fait des études des études techniques qui me convenaient pas du tout suite à un échec scolaire. Et puis en fait, vraiment l'expérience de l'art qui s'est opérée sur moi je suis rentré aux Beaux-Arts et tout, ça a été une opportunité extraordinaire. C'est vrai que je me dis après ça que je vois pas tellement ce que j'aurais pu faire. Sans ça, et aujourd'hui, je me dis, j'ai aucune autre qualification vraiment pour à part ce que je fais, qui me contente et qui me rend vraiment heureux.
Voilà. On connaît notamment toute une partie de vos travaux qui sont liés au travail du néon. On va reparler un peu de ce début de carrière. Très vite, hein, dans les premières pièces que vous produisez, la lumière a immédiatement un rôle important. Ça peut être des gyrophares, des projecteurs, de l'ombre projetée. Comment vous est venue cette envie de travailler sur la lumière, sur ces mécanismes d'ombre?
J'ai toujours été fasciné par la lumière. Quand j'étais enfant, par la fête foraine, par Pigalle, quand mes parents venaient à Paris, et ça m'a toujours fasciné. Même quand j'étais enfant, j'étais vraiment petit, je sais plus quel âge, j'ai embrassé un réverbère. Ça m'a assommé, et je pense que là, ça m'a donné la vocation de la lumière. La lumière, c'est quelque chose qui métamorphose très facilement, enfin, qui théâtralise, qui insiste comme ça sur un récit, sur une façon de voir. Enfin, bon, après, c'est une recette aussi du monde du spectacle. Ça, c'est des éléments que j'aime bien contourner, quoi. Souvent, d'ailleurs, quand j'utilise la lumière, c'est de manière assez simple, parce que j'ai pas de compétences non plus étendues dans le sujet. Mais j'essaie comme ça des choses qui ont un impact, différents types d'impact qui peuvent aller de l'éteignement jusqu'à l'aveuglement total, mais qui agissent comme ça sur les sens immédiatement. Et la lumière fait partie d'un élément de métamorphose vraiment important, quoi.
Ces enseignes, ces premières enseignes, les premiers travaux comme Mort en 88, ces premiers néons, ces Pigalle, c'est vraiment ces lumières rouges vives qui
non,
qui
après vous les néons, c'est l'histoire. Bon, les néons, c'est vraiment un élément de mon travail, quoi, qui est lié à des formes, à des phrases, beaucoup de phrases comme ça, qui font partie un peu des lieux communs du langage, hein, du quotidien, de tout à chacun, que j'utilise et qui s'offrent comme ça, comme une sorte d'enseigne. Représentant une écriture souvent fragile, un peu maladroite, et qui serait vraiment, moi je le définis comme quelque chose qui est vraiment le contraire d'une injonction ou de quelque chose qu'on voit par la publicité, quand on met une enseigne, c'est pour qu'elle soit vue, c'est pour qu'elle fasse réagir. Moi, la façon dont mes mots, mes phrases peuvent faire réagir, c'est parce qu'elles peuvent dire plein de choses. Elles peuvent dire déjà ce qu'elles signifient, mais en même temps, elles sont aussi des métaphores possibles pour toutes sortes de recoupement par expérience qu'on a dans sa propre vie, quoi. Enfin, c'est une autre façon d'utiliser la lumière, dans le champ lexical comme ça de ma pratique artistique. Je parle de l'écriture néon ou des...
Alors sur ces écritures au néon, on va en parler un peu, parce que c'est vrai que ça fait partie des pièces récurrentes tout au long de votre carrière, de votre travail. Il y a à la fois ces mots qui sont des espèces de mots symboles, des mots rêvés, des grands, voilà, et en même temps parfois aussi des mots beaucoup plus provocateurs, plus punk, ma vie, mon cul, ma vie, mes couilles.
Ça vous obsède, hein.
C'est parce que je trouve qu'il y a quelque chose en tout cas lors de la provocation dans ces écritures-là, non, pas du tout. Il n'y a pas différents régimes d'écriture dans vos néons.
On va finir par être d'accord.
Ah bah, oh bah moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, vous savez. Je suis là pour recueillir la parole.
C'est pareil, la provocation. Enfin, bien sûr que j'ai été punk, bien sûr, j'aime bien bouger les choses, me bouger moi-même. J'aime vraiment pas l'inertie. Il y a ça, mais après, qu'est-ce que ça veut dire être punk? C'est assez rigolo. C'est vrai que dans les années 70, c'est rigolo. Les gens avaient. Voilà, une certaine vision à la fois étroite et en même temps complètement idéalisant de manière inversée ce que pouvait apporter le futur. Enfin, c'était une sorte de vision, l'anticipation. On voit ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, je pense que ces visions qui ont été liées à ce mouvement ont été assez justes, hein. Mais on peut pas non plus s'arrêter là. Et puis puis après la provocation, je m'en méfie aussi. Moi, j'aime bien quand la provocation est sympathique. Je me méfie de la provocation. Marine Le Pen, c'est une provocation, par exemple. Enfin bon.
C'est quoi la provocation sympathique pour vous, Claude Évêque?
La provocation, c'est quelque chose qui peut faire bouger les gens. On va faire bouger les gens de leur chaise sans les faire tomber, quoi. Mais bon, c'est important aussi de bousculer un peu, de bousculer l'ordre établi, les conventions, remettre en cause des questions et des interrogations sans forcément apporter la bonne réponse ou la bonne parole. Mais après la provocation, c'est puis qui est-ce qui provoque? On provoque à un moment, après on est à la ramasse, tout ça. Enfin c'est je sais pas trop à quoi ça correspond. Après oui, bouger, oui, essayer de d'agacer, mais moi je préfère l'agacement que la provocation.
Quand vous faites le néon en forme de Mickey à côté du panneau Arbetmarschfrei, c'est de la provocation sympathique par exemple, ou c'est de l'agacement? Qu'est-ce que vous cherchez à susciter quand vous faites ça?
On est
en 92, hein.
Ouais, Arbetmarschfrei, bon, j'avais repris l'enseigne au moment de la création du parc Euro Disney, hein. Moi j'avais comme ça, par jeu, repris la forme de l'enseigne avec Arbetmarschfrei à la place de Euro Disney qui était écrit à l'époque, et puis le Mickey comme ça qui était assez déstructuré, assez détruit comme ça dans sa symbolique. Je reprenais le logo, je l'inversais, je mettais quelque chose de quand même assez grave, puisque j'associais ce parc dans son rapport à l'amnésie. Parce que les parcs Disney, moi je considère toujours d'ailleurs que c'est quand même politique, que c'est une façon de faire rêver pour oublier la réalité et pour aussi rendre les gens assez inertes. Donc il y a quand même derrière une idéologie de ça. Moi j'ai joué avec ça, quoi. Bon, je l'ai joué d'une manière effectivement discutable. Moi j'aimais bien que ce soit comme ça, que c'était pas pour emmener du politiquement correct et tout. Ça emmerdait les gens, ça a choqué aussi. J'ai dû m'expliquer aussi devant des anciens déportés, sachant que mon grand-père a été lui-même déporté. Il a quand même fallu que je m'explique comme ça sur comment on joue les symboles, et qu'à un moment donné, les symboles ont un certain poids selon les gens que ça affecte. Moi, après, ça m'amuse de jouer ce jeu-là et pas forcément être dans le truc à moitié. Bon, bah, évidemment, on peut dire que c'est de la provocation, que ça amène une certaine gêne, un certain malaise.
Est-ce qu'il y a un moment donné où, par exemple, vous avez le sentiment d'être allé un cran trop loin, de regretter justement d'être allé trop loin dans la provocation ou dans l'emmerdement?
C'est toujours bien.
Alors parlons, puis continuons à parler de vos néons et de vos travaux sur les néons avant de parler du travail in situ, si vous le voulez bien. Par exemple, quand on regarde, c'est jamais votre écriture, ou très rarement. Pourquoi est-ce que ce n'est pas vous qui écrivez? Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas votre écriture à vous, Claude Lévesque?
Parce que j'ai pas envie de me poser la question de comment je vais représenter... J'ai envie de mettre les choses un peu en décalage, un peu en... Si à la fois je choisissais les mots, les phrases, et qu'en même temps je les écrivais, finalement j'aime bien le hasard de trouver une phrase au moment où je m'y attends pas. Vraiment, ça peut être un mot que quelqu'un dit, ça peut être quelque chose que je vois sur un mur. Enfin, c'est jamais trop, en trop cherchant que je trouve quelque chose de simple. Ne prends pas froid, je ne regrette rien. Je suis venu ici pour me cacher, pour parler de néons plutôt récents. Après, je l'ai fait écrire dans un premier temps, pendant assez longtemps, c'est ma maman qui écrivait tous ces mots jusqu'à ce qu'elle puisse plus. Et puis après, j'ai trouvé des gens autour de moi pour le faire, des enfants d'amis, mon filleul qui est là, ici présent, qui écrit depuis un grand moment, là, comme ça, toutes les phrases des
Romaric Etienne,
voilà. C'est important parce qu'en même temps, bon, je repère, hein, je fais un casting sur qui va écrire comment. Il faut que l'écriture, c'est un gros travail dont on se rend pas du tout compte, parce qu'il faut ne pas s'en rendre compte aussi. Mais en même temps, il faut que l'écriture, elle soit lisible, avec une certaine maladresse. Faut pas qu'on sente que ce soit trop calculé. Enfin bon, c'est quand même tu connais, hein, tu sais comment ça se passe, hein. Il faut faire quand même des pages d'écriture avant de choisir la bonne. Et nous-mêmes, on fait un travail dessus pour pouvoir la reproduire à l'échelle de réalisation. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on, pour que ce soit le plus naturel possible, qu'on a l'impression que on entre pas dans quelque chose de trop dessiné, trop établi, on est obligé à la fois de respecter la maladresse, mais en même temps de faire un gros travail pour ne pas la dénaturer, quoi.
Des pages d'écriture,
il faut qu'on ait l'impression que ça a été fait comme ça. Voilà. C'est assez amusant. Moi, j'aime assez ça. Donc, ça passe par des systèmes, mais ce n'est pas moi qui écris. Je choisis les phrases, mais à la limite, quelqu'un peut me dire quelque chose, quoi, je le note et je le réalise si j'ai envie. Voilà, c'est un jeu, c'est un peu un jeu de hasard, et en même temps, enfin, j'aime bien, en même temps, vraiment un jeu de hasard, d'incertitude, de pas vouloir non plus que les mots en disent trop, c'est-à-dire choisir des choses comme ça qui ont plusieurs lectures possibles, parce qu'en dire trop, ça voudrait dire être dogmatique. Ça m'ennuie. J'ai pas du tout envie de dire des mots pour dire aux gens comment faire. Et bon, après, voilà, c'est un jeu qui est que j'aime bien. Voilà.
Il y a un point commun à toutes ces écritures, quel que soit le scripteur, c'est qu'elles sont toutes tremblées, comme hésitantes, comme si ces mots avaient du mal à être écrits, à du mal à sortir.
Ah oui, parce que c'est tout un jeu. Bon, je demande toujours, enfin, Romaric, là, qui est là, je demande à ce qu'il écrive à la main gauche. Justement pour accentuer tout le côté un peu difficile.
C'est le même travail que vous faites sur justement ces écritures au néon et sur les enseignes lumineuses, ou c'est deux travaux complètement différents, par exemple les Scarface, les Tony Montana.
Ça c'est différent, c'est des projets, ça c'est plus des dispositifs, ça rentre pas dans le même registre. Mm-hmm. Là c'est plus un jeu sur une représentation qui est faite sur un lieu. Scarface, ça, j'avais réalisé cette enseigne lumineuse façon Las Vegas, comme ça, tout en or, avec les ampoules qui se reflétaient dans des lettres bateaux, comme ça s'appelait à l'époque. Et j'avais fait ça dans un cinéma désaffecté de Marseille, parce que ça faisait référence, c'est une sorte d'emblème au quartier nord, voilà, aux jeunes de banlieue et tout ça. Et puis c'est un film, le film de Brian De Palma, qui est pour moi aussi vraiment une référence importante, voilà, donc... Ça, c'était un peu le choix que j'avais fait, mais ça c'est plus un dispositif dans un cinéma qui jouait aussi dans ce contexte du cinéma.
À quel moment vous commencez à vous interroger, à rentrer dans ces créations de in situ, donc dans ces installations in situ, dans votre carrière? À quel moment vous commencez à avoir envie d'investir des lieux, et pour quelles raisons? Parlez-nous par exemple de la création, on en prendra un au hasard, un que j'aime beaucoup plutôt, Stigmata. Parlez-nous de la création de Stigmata, essayez de le décrire un peu, parce qu'on est à la radio.
À New York, c'était la directrice de l'époque de PS1 là, qui m'avait proposé d'investir l'escalier, qui était un escalier assez haut, qui passait par plusieurs niveaux et qui permettait à chaque palier de voir la ville et en même temps accéder dans les salles du musée, enfin un lieu qui n'était pas un simple escalier, qui avait imaginé que je pouvais travailler là-dessus. Donc j'ai fait une sorte de parcours vertical de lumière sans fin, comme ça, qui allait du rez-de-chaussée jusqu'en haut, avec des plafonds reflétants qui inversaient comme ça les trajectoires de lumière, qui rendaient un peu basculer le passage des gens dans l'escalier, tout ça.
Et avec un sampling de la musique de Psychose.
Oui,
la
Psychose
en boucle et accélérée.
Ouais. Qui était en boucle avec une stridulation d'insectes qui on entendait quand on regardait par la fenêtre, quand on voyait la ville, au travers d'un filtre rouge que j'avais posé comme ça sur chaque fenêtre. Donc ce son, en fait, se percevait bien quand on s'approchait de la vision de l'extérieur, quoi. Et puis il y avait ces montées de lumière, puisque j'avais fait des colonnes de lumière avec des systèmes de cabochons, enfin ce qu'ils utilisaient pour les manèges, hein, avec une animation musicale, une animation de la lumière qui l'a fait monter ou descendre, ou se mouvoir.
À quel moment vous commencez, justement, vous disiez tout à l'heure que la musique, ça vous servait sur les installations, etc. À quel moment vous décidez de les inclure dans les installations, de mettre du sampling, et qu'est-ce que ça apporte?
Après, c'est très différent l'utilisation de la musique. Je peux prendre des morceaux de musique, je peux faire chanter, mais ça peut être des fois simplement des sons, ça peut être des sons qui sont tout à fait éloignés de la musique, quoi. Comme je disais tout à l'heure, je suis pas musicien, donc j'aborde jamais la question du son comme une composition. Après, il faut qu'elle soit partie prenante de l'espace, quoi, qu'elle fasse partie des sensations, au même titre que on va ressentir par la vision, par l'ouïe, par voilà, le toucher aussi. Enfin, c'est la façon dont je vais utiliser le son. Ah, mais le son, je le puise où je veux, quoi. Je veux dire, c'est. Mais c'est rarement un effet de composition qui va, même si on est obligé effectivement de travailler. Moi, je travaille avec un musicien de longue date, comme ça, qui s'appelle Jérôme Knox, avec qui on s'entend très bien et tout, qui justement assume toute la partie voilà, conception du son et comment on arrive à le mettre en place dans l'espace avec parce que le son peut d'un seul coup changer complètement selon la nature de sa diffusion, selon l'espace. Donc il faut toujours faire beaucoup d'essais et ne pas s'arrêter à l'écoute de studio.
Mais alors justement, Claude Lévesque, comment est-ce que vous travaillez avec Jérôme Knox? Vous l'amenez sur l'endroit de l'installation?
Bien sûr.
Quel type de directive vous lui donnez?
Oui, je l'emmène à côté de lui. Déjà, faut qu'il connaisse l'espace, bien sûr, c'est important. Puis après, on cherche des sons. Je lui dis ce que je souhaite, et puis on écoute des choses, et puis on voit comment ça réagit, comment on peut les mettre en boucle, en repeat. Voilà, ou créer comme ça plusieurs sons qui vont jouer à des moments donnés, à des temporalités différentes, selon aussi, bon, ça peut être qu'un espace, mais ça peut être aussi une succession de plusieurs espaces. Moi, j'appelle plutôt ça un peu un parcours à un moment donné. Et puis voilà, mais après, le son n'est pas systématique. Parfois, ça peut être aussi le silence. Parfois, il y a des fois des lieux qui ont une présence sonore extérieure qui peut suffire. Et de toute façon, il faudra qu'on calcule avec tous ces impératifs, voilà. Puisque c'est vraiment dans l'espace, c'est pas un truc collé pour une simple écoute.
Vous diriez que le son peut vous servir, quand vous avez besoin de l'ajouter, à rendre vos œuvres plus immersives, à avoir un rapport plus prégnant, plus direct avec les gens qui viennent justement se promener dans ces parcours?
Ah bah oui, c'est certain, oui, bah oui, parce que c'est vrai que le son, ça amène un élément extrêmement important, quoi.
J'ai trouvé toujours sur votre site, qui est très complet et qui est vraiment qui donne un bel aperçu de l'évolution de votre travail en fonction, voilà, depuis la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui. J'ai trouvé ce petit poème qui ressemble presque à un haïku. Vous me direz ce que vous en pensez ou ce que c'est exactement. L'art ne sert à rien sauf aux petits lapins qui se font manger grillés. Qu'est-ce que vous dites-moi quelque chose? Moi, j'ai adoré cette petite poème. Dites-moi, vous en souvenez plus? Vous aimez bien manger des petits lapins grillés, Claude Lévesque?
Bah, j'aime pas tellement le lapin, moi.
Alors,
c'était une façon de dire. Moi, j'aime bien que l'art sert à rien, parce que tous les gens qui disent l'art va servir pour guider le monde, pour faire prendre conscience, enfin, les gens qui veulent attribuer à l'art d'un seul coup une faculté, moi, je dirais plutôt que ça sert à rien, quoi. De toute façon, on sert à pas grand chose, mais dans cette faculté qu'on a d'être comme ça un peu à la marge de tout, c'est peut-être ce qui est le plus nécessaire, en même temps. Parce que voilà, mais après, moi, je déteste tout ce qui est art politique, tous les gens qui sont imbus d'actualité pour représenter. Moi, effectivement, c'est pour ça que je peux dire une phrase dérisoire, c'est que trop se donner de leçons, d'exercices dans sa représentation, ça nuit à ce qu'on donne aux autres, quoi. Je pense qu'il faut être vraiment libre. Et puis après, pour moi, l'échange est très important. C'est même complètement essentiel. Je peux pas me passer de l'échange avec les autres. Même si je les bouscule, même si j'ai envie de les faire tomber de la chaise. C'est important, l'échange. C'est vraiment parce qu'il y a un apport. Sans échange, on n'arrive pas à évoluer. On stagne. Toutes sortes d'échanges, hein. C'est aussi dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, mais c'est aussi dans le travail, travailler en équipe, travailler avec toutes sortes de gens qui permettent les choses ou avec lesquels il faut rentrer en dialogue pour les négocier, voilà.
Ça peut être le public aussi.
Bien sûr. Non, ça fait partie. Non, mais ça, c'est une grosse partie de l'échange, le public. Hein. C'est des gens, même des anonymes, qui vont faire part de certaines choses. Qui vont avoir une réaction qui moi j'aurais pas imaginé, mais d'un seul coup je vais me dire oui, voilà, c'est
Vous disiez hein, dans la veine de ce que vous venez de dire à l'instant que vous déclarez dans une interview, je ne pense pas qu'on puisse être social, politique ou moral. Si ça se dit d'un artiste, c'est que c'est déjà foutu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'art politique, il n'y a pas d'art social.
Ah non, je déteste l'art politique. Pour moi, c'est foutu. Bon, l'artiste le plus politique, c'était Warhol, c'était Andy Warhol. C'est des artistes comme ça qu'on peut jouer comme ça avec un effet de miroir sur des tas de choses, sur des tas d'emblèmes du monde. Voilà, et ça, c'est peut-être un artiste comme Warhol qui est le plus parfait dans ce genre de jeu, mais en même temps qui sert à pas grand chose, quoi. Voilà, mais qui, voilà, ça fait rêver, ça remet en question, en route tout plein de choses. Mais après, moi j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour un artiste comme Joseph Beuys, qui aussi pouvait être politique, c'est-à-dire qui avait une position politique en Allemagne, position écologiste, position aussi pas mal à côté de la RAF à un moment donné. Enfin bon, c'est intéressant, hein, mais ça va au-delà aussi. Hein, je veux dire, il a un jeu parce qu'il avait. Moi j'aime bien les gens qui sont impliqués dans le quotidien. Alors effectivement, être impliqué dans le quotidien, c'est aussi être politique. Mmh. Après, inversement, moi je me méfie du dogme, je me méfie des gens qui donnent les leçons aux autres. Mais après, c'est vrai qu'on ne peut pas être artiste sans. Dans la mesure où les gens vous regardent, observent votre travail, échangent, c'est politique. Ce fait-là, l'est aussi. Mais c'est le jeu, quoi. Le jeu. Moi, j'aime bien jouer avec la réalité parce que la réalité, elle est à la fois tragique, elle bouleverse, elle rend malade, mais en même temps, on essaie de la détourner pour peut-être idéaliser, comme ça, en contrepoint, ce qui se passe. Voilà, donc ça c'est un jeu que j'aime bien, mais pas pour porter de jugement ou un fond moral et tout, ça m'intéresse vraiment pas, quoi, ça.
Pour parler toujours hein, de vos installations in situ, vous disiez tout à l'heure que pour les néons, vous faites des pages et des pages et des pages d'écriture pour trouver...
Pour moi.
Enfin, vous faites faire des pages et des pages d'écriture pour trouver l'écriture exacte qui vous plaît. Comment est-ce que, quand vous arrivez dans un espace vierge dans lequel vous allez installer un projet, une œuvre, comment est-ce que vous vous comportez vis-à-vis de cet espace? Vous prenez des notes, vous disiez tout à l'heure que vous avez pris des photos, vous faites un plan, vous êtes très organisé, c'est très instinctif. Expliquez-nous un peu ça.
C'est un peu de tout ça, Après, ce qui se passe, c'est que ça dépend. On peut me confier un espace, bon, qui a... au moins qu'un écho parce qu'il a une usine, un lieu de vie quel qu'il soit, bon, qui se retrouve désaffecté, éloigné de sa fonction et tout, bon, ça amène certaines questions. Donc lorsqu'on propose un lieu comme ça, j'ai déjà plusieurs éléments qui sont entre mes mains, quoi. Bon, après, si c'est un lieu neutre, comme un musée, comme une galerie, devant un white cube, c'est une autre question, c'est un autre questionnement, quoi. Souvent, c'est des notes que j'aurais prises avant sur d'autres choses, les envies de mettre en forme un projet. Là, comme ce que j'ai actuellement, le projet que j'ai fait à la Maison Rouge pour l'exposition des contre-cultures, bon, c'est un projet des années 80 que j'avais jamais réalisé parce que j'avais jamais trouvé l'espace adéquat. Puis du coup, je me suis dit, bah là, ce serait bien de le faire parce que je l'avais mis de côté depuis longtemps. Voilà. Mmh. Après, il y a des opportunités comme ça pour réaliser des projets. Quand il s'agit de lieux comme des musées ou des galeries, après, quand c'est vraiment des lieux de vécu, enfin des lieux de mémoire, c'est vraiment un tout autre registre de travail, d'exploration, enfin voilà.
Alors justement, la différence entre une installation in situ, temporaire, et une installation dans un espace public pérenne, comment est-ce que vous approchez ça de manière distincte, évidemment? Parlons par exemple, pour les Parisiens, de votre œuvre Tchaïkovski, qui est à côté de la ligne du tramway, ou de Modern Dance autour du château d'eau à Montreuil. Comment est-ce que vous appréhendez, vous, cette inscription pérenne dans l'espace public par rapport à votre travail in situ?
Ça, c'est d'autres questions encore, parce que là, il s'agit d'art public. L'art public, c'est toujours assez complexe. En même temps, c'est important qu'il y ait de l'art dans les lieux publics. Ça, moi, je trouve qu'il faudrait qu'il y en ait encore plus. En France, on est un peu timide sur ce côté-là. Et après, c'est aussi compliqué pour les artistes. Ça comporte énormément de contraintes, ne serait-ce que la pérennité, enfin, la façon dont les œuvres vivent avec les intempéries, voilà. Mais aussi la pérennité du temps, la vision, ce qui a été dit, quel sens ça a 50 ans après, quel sens ça a 500 ans après, enfin, voilà. Moi, je crois, par exemple, dans les commandes publiques, bon, je me heurte parfois à des... Je fais très peu de 1% parce que souvent, ça m'intéresse pas et on me propose toutes les trois semaines une médiathèque, un collège, une médiathèque. Bon, ça, c'est vraiment hyper limité. Puis là, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse plus, c'est quand on me confie à un édifice. Là, je vais faire un travail sur les vestiges des pistes d'essai de voitures, de pneumatiques Michelin à Clermont-Ferrand. Ça, c'est vraiment génial.
Après, qu'est-ce que vous allez faire là-bas, justement? Comment est-ce que vous avez appréhendé ça?
Parce
que
je sais pas ce que je vais faire. Oui, mais c'est génial, c'est extraordinaire.
Qu'est-ce qui vous excite dans ce projet-là?
C'est un monument de l'industrie. Enfin, c'est une espèce de tremplin comme ça qui permettait aux voitures de s'élancer, puis de pouvoir voir la qualité des pneus, tout ça. Bon, après, c'est un vestige industriel, bon, qui a arrêté de fonctionner début des années 2000. Mais qui a une présence dans la ville incroyable, une espèce d'élément assez vertical, enfin des trois pistes comme ça qui font une trajectoire qui est vraiment extraordinaire. Après le château d'eau de Montreuil, ça a un sens, ce château d'eau aussi abandonné, mais avec autour les constructions, moi qui m'ont pas mal intéressé, parce que les gens chez eux, tous les immeubles qui sont autour de château d'eau, que je vous conseille d'aller voir à Montreuil. Les gens qui habitent là, de leur fenêtre, ont un cadrage sur les éléments lumineux que j'ai posés. J'ai posé autour trois cerceaux de lumière, comme ça.
Bleu.
Comme trois hula-hop autour de ce château d'eau qui ne fonctionne plus, enfin, qui est un vestige. Et la ville, à un moment donné, devait le raser. Bon, ça coûtait très cher de le démolir. Ça coûte très cher de démolir un bâtiment industriel. Et puis du coup, après, ils m'ont proposé de faire quelque chose dessus. Et puis en même temps, c'est vrai que cet élément, il a raison d'être dans le quartier. Il fait partie de... Il a vraiment une sorte de cohésion entre le positionnement des immeubles, leur forme, et puis ce qu'il est, quoi.
Ça vous intéresse plus aujourd'hui?
C'est compliqué, par exemple. Voilà. Moi, je pense que les commandes du tram, c'est compliqué, quoi.
Pourquoi c'est plus compliqué?
C'est souvent compliqué parce que les choses tiennent pas, qu'il y a toujours un problème de maintenance. C'est compliqué, la maintenance. Faire qu'une œuvre puisse tenir le coup, voilà. Et après, moi, je crois absolument pas aux œuvres qui vont durer 500 000 ans. Ça, c'est impossible. On peut pas demander à des artistes. Et ça, c'est compliqué dans les commandes, C'est-à-dire que moi, j'ai vu, on m'a déjà refusé une commande parce que je disais, moi, une commande, si elle fait 20 ans, c'est déjà bien. Si elle est vécue pendant 20 ans par la population et tout, c'est déjà énorme. Mais après, on ne peut pas demander à un artiste de mettre une commande. Et puis après, tout l'environnement urbain change obligatoirement. Il ne peut pas être pareil, il évolue. Et puis après, l'œuvre reste. Et puis de toute façon, elle n'est jamais maintenue. Au bout d'un moment, elle finit par... Et on donne un coup de pelleteuse pas au bon endroit, puis elle part dans la benne. Et puis tout le monde est content. Donc, par contre, un engagement d'un artiste sur la réalité d'un lieu, sur une période déterminée, c'est autre chose. En ce moment, on y vient à ça. Par exemple, le contrat qu'on a à Montreuil, c'est 50 ans, c'est pas pareil. Donc, au bout d'un 50 ans, il faudrait peut-être l'enlever et puis faire autre chose. Et puis, ça, la commande publique comme un truc qui est inerte pendant l'éternité, moi je dis non. Personne n'est capable de surmonter un truc comme ça.
Et vous dites en même temps que ça vous intéresse plus aujourd'hui que ça ne vous intéressait hier de vous saisir, de vous inscrire dans l'espace public.
Mais ça dépend quoi, ça dépend
de pérenne.
Tchaïkovski, je me suis pas emmerdé, j'ai fait un truc simple. C'est compliqué.
Tchaïkovski, c'est l'œuvre qui est installée au bord du tramway T3 vers Porte de Gentilly.
Parce qu'elle est assez simple et tout. Après,
vous pouvez la décrire en quelques mots pour nos auditeurs.
Enfin, on m'a proposé un bâtiment. Bon, j'ai fait tout le trajet du tram. J'ai fini par trouver un tout petit bâtiment dont j'aimais beaucoup la forme, qui avait une forme parallélépipédique, un peu comme une boîte à chaussures. Rien d'exceptionnel, rien de spectaculaire comme architecture, mais je trouvais que c'était plutôt bien. Et c'était un petit bâtiment qui arrivait au bout de l'aqueduc de connexion de toutes les eaux de Paris, quoi. Il y en a deux, il y en a un au nord, un au sud. Et là, il se trouvait près du parc
Montsouris,
voilà.
Mmh. Et du réservoir, du réservoir du 14e qui est à côté.
Oui, c'est ce réservoir-là, Voilà. Donc c'était un petit bâtiment assez peu visible, que je trouvais d'ailleurs assez beau et tout. Donc j'ai décidé de mettre dessus quatre rabats, comme des rabats d'un carton, quoi, qui sont inclinés, mais qui sont réalisés en inox martelé, et qui reflètent aussi bien de jour que de nuit tout ce qui se passe dans la rue, quoi, la lumière la nuit, et puis tous les mouvements de jour. Enfin, c'est comme du miroir. ondulant, comme une surface d'eau. Quoi. C'est pour ça que j'ai appelé ça Tchaïkovski, le lac des cygnes. Mmh. Cette question de la complexité, du reflet, tout ça.
Est-ce que vous ressentez particulièrement, intimement, Claude Lévesque, le besoin d'être compris?
Après, c'est plutôt dans l'échange, dans l'écho que ça peut avoir. Et puis, c'est toujours compliqué parce qu'on peut ne pas être compris un moment, l'être après. Enfin, je sais pas, ça, c'est l'incertitude. C'est plus de votre avis. C'est compliqué d'avoir soit cet avis-là sur soi-même.
Mais c'est le début de mes questions compliquées parce que je vais rentrer dans le vif du sujet. Dites-nous, Claude Lévesque, qu'est-ce qui est pour vous dans votre processus de création le plus difficile, les obstacles qui sont pour vous les plus difficiles à surmonter quand vous commencez à travailler sur un projet ou peut-être
les gros obstacles. L'administratif. Ça, c'est vraiment une pollution et ça vous... Des fois, c'est tellement lourd. Puis après, je suis pas une grosse équipe. J'ai un collaborateur, Élie Morin, qui travaille pour 10. Donc, c'est vrai que la partie administrative, tout est de plus en plus procédurier, quoi. Mm-hmm. Et c'est moi, c'est pas les contraintes d'un lieu qui me gênent. C'est un lieu, ce sont des contraintes de sécurité. Voilà, une commission de sécurité passe, elle fait pas de cadeau. Je fais un projet dans le Louvre, là, comme j'ai fait dernièrement. On rigole pas avec les questions de circulation du public. Il y a aucun risque à prendre. Mais ça m'intéresse. Moi, toutes ces données-là, toutes ces contraintes-là, m'intéressent parce que d'abord, je les prends tout de suite en compte. Je me lance pas dans un projet, puis après, je me dis, merde, je peux pas faire ça parce qu'il y a tant d'unités de passage, tant d'auteurs sous plafond qui peuvent pas du tout être... Parce que c'est de plus en plus serré, ça. C'est vraiment de plus en plus serré. Et c'est zéro risque. Mais le risque est anticipé largement. Mais ça, moi, ça m'intéresse. Parce que ça, j'arrive à le contourner. J'arrive à jouer avec ça. À faire des compensations. Manque de lumière par effet de lumière qui peut jouer, justement, sur le nombre de lux obligatoires. Bon, après. Ça, c'est un truc que j'arrive assez bien à faire.
Est-ce que vous diriez
les difficultés, c'est aussi d'avoir un manque d'idées ou une idée qui va pas du tout. Alors soit on s'en aperçoit vite, on évite le carnage, quoi, parce que des fois je fais des choses puis je me rends compte qu'après ça marche pas du tout.
Par exemple, donnez-nous un exemple concret d'une install ou d'un projet d'installation d'un projet qui n'a pas fonctionné, que vous avez dû auquel vous avez dû renoncer parce que ça ne marchait pas.
Ça arrive pas une fois. Après, faudrait plutôt dire un projet aujourd'hui qu'on connaît qui marche pas bien, mais je sais plus. Que ça me vient pas l'idée. Après, oui.
C'est quoi? C'est parce que vous avez vu trop grand? Parce que d'un seul coup, l'espace se conforme pas à ce que vous aviez en tête? Parce que...
Ouais, un manque de vision, des fois. Ça peut arriver, même si, on a l'habitude, on est excité par les choses et tout. Puis, ça arrive, c'est pas tout le temps, parce qu'on fait en sorte de toute façon, en plus, on peut pas dépenser d'argent, on peut pas faire d'erreurs, comme ça, d'écart sur un budget, sur ça. Donc évidemment, après je demande des avis. Hein. Moi, je suis pas tout seul dans mon coin à foncer. Après, quand je suis pas sûr des choses, je demande beaucoup d'avis autour de moi, beaucoup beaucoup, de toutes sortes de gens et tout. Parce qu'on peut pas. Après, ça dépend quelle est la proportion d'erreurs et ce qu'elle implique, hein, évidemment.
Et est-ce qu'il y a des projets, par exemple, qui sont en vous depuis? Tout temps, c'est-à-dire des projets qui vous habitent, que vous n'arrivez pas à incarner, dont vous cherchez régulièrement à pouvoir les créer, déboucher sur quelque chose, mais qui reste là, que vous chérissez, mais que vous remettez à plus tard, en quelque sorte, Claude Lévesque.
Oh, ça peut arriver sur des choses, mais bon, pas des trucs qui me... Enfin, moi, j'aime assez aller vite, j'ai pas de patience, j'aime bien que ça aille vite, réaliser assez vite. Soit je réalise, soit je peux pas. Alors c'est vrai que des fois je peux buter sur quelque chose, être dans une situation d'échec, ça arrive plein de fois. Et puis ça amène de la frustration. Mais si je garde trop un truc que je réalise pas, c'est plutôt pas bon signe. Ça veut dire que c'est pas terrible au fait, et que on se rend compte 10 ans après que c'est plutôt bien de pas l'avoir réalisé. Ça m'est arrivé de me lancer dans des projets, notamment des concours. D'être très déçu de pas avoir été retenu, puis de voir que 10 ans après le projet était ultra foireux, quoi. Encore heureux qu'il soit pas fait.
Et vous avez le sentiment?
J'avais pas le recul au moment où j'ai rendu le truc, par exemple.
Et vous avez le sentiment par ailleurs que vos projets se nourrissent les uns les autres, que d'un projet à l'autre, il y a quelque chose qui se passe, il y a une transmission de relais entre guillemets.
Je pense, oui, parce que je fais pas à chaque fois quelque chose d'exclusif. Je fais des choses qui changent parce que les lieux changent, donc les propositions sont aussi en fonction de l'histoire du lieu, donc c'est normal que je peux pas répéter à chaque fois le même vocabulaire systématiquement, enfin la même recette comme ça de propositions sur des lieux toujours différents, toujours en mouvement. Mais enfin moi je considère que mon vocabulaire dans mon travail il est assez il est quand même il y a une ligne que je sais pas comment dire, je trouve pas le mot, mais
est-ce que par exemple vous pensez qu'il y a des matériaux ou des dispositifs dont vous serez amené à vous lasser? Ça fait plus de 20 ans que vous travaillez par exemple avec le néon. Vous avez toujours le même plaisir aujourd'hui à travailler avec le néon qu'il y a 20 ans?
Oui, oui.
Avec les fumigènes, par exemple, les machines à brouillard que vous utilisez beaucoup dans vos installations aussi.
Quand même. On n'est pas dans le brouillard tout le temps.
Non, on n'est pas dans le brouillard tout le temps, mais ça fait partie des motifs récurrents.
Après, moi, j'adore les matériaux, les effets de spectacle. Mais j'en abuse pas. Je mets pas une machine à brouillard à chaque installation. Après, j'aime beaucoup ce que produisent ces effets-là. Je m'en lasse pas, quoi. Après, les néons, j'ai des difficultés de plus en plus à trouver des phrases. Vraiment, c'est difficile. Avant, j'en trouvais trois tous les mois, et maintenant, j'en trouve trois tous les ans. J'ai un peu fait le tour. Voilà.
Vous avez un peu fait le tour
de
la
normal.
J'aime bien vous parler de ça, de ces machines à brouillard, enfin de vos installations, comme des effets spéciaux standards. C'est quoi des effets spéciaux standards, Claude Lévesque?
Parce que c'est pas sophistiqué, quoi. Ça reste assez simple. Faut que je les maîtrise, faut que ça fonctionne. Après, ça, machine à brouillard, ça va perturber les repères, ça va créer une sorte d'opacité, comme ça, de la volumétrie d'un espace. Enfin, voilà, ça a beaucoup de fonctions, ça offre beaucoup de choses, mais en même temps c'est ultra basique, quoi. Je me suis déjà retenu pendant des années à ne pas utiliser la machine à bulles, que je trouve extraordinaire. On va probablement en plus m'empêcher de fonctionner.
Et pourquoi vous êtes empêché d'utiliser la machine à bulles?
Ah non, parce que c'est très beau, j'adore les bulles, la forme, ce que ça reflète et tout, mais quand même.
Mais quand même quoi?
Non, mais après, ça peut justifier, peut-être que je l'utiliserai dans le futur sur un projet où j'estime que ça marche. Là, ça, j'évite les trucs gadgets aussi, bon, qui peuvent amener un peu à produire de l'effet gadget. Voilà, même si des fois on n'y échappe pas, parce qu'on est séduit aussi par les effets spéciaux. Enfin, je rentre pas trop dans les gammes des effets spéciaux.
Sur les installations in situ, à quel moment vous décidez que c'est fait, que l'œuvre est terminée? Comment est-ce qu'on décide à un moment donné de se dire stop, c'est ça, j'y touche plus, c'est fini?
Bah ça, c'est jamais simple, hein. Il faut prendre un peu de recul, il faut toujours se donner la possibilité d'un peu de recul. Puis après, souvent, moi, ça c'est un principe de travail, tout varie selon chaque projet, enfin, il n'y a pas de projet qui se ressemble. Moi, je mets beaucoup d'éléments et j'en retire beaucoup. Je procède par élimination pour parfois, un peu nettoyer, arriver à l'essentiel. Je dégage des choses, quoi. Et puis après, je décide qu'il faut arrêter, quoi. Mais après, quand on surcharge, au moment, ça veut dire qu'il faut vraiment envisager d'arrêter, quoi, ou revoir un peu, voilà.
C'est
un peu comme moi, je pense que je travaille comme un peintre. C'est un peu le principe du peintre qui va remplir la toile, qui va faire une forme, qui va la contredire, qui va éliminer des choses et puis qui va arriver finalement à l'essentiel, puis qu'il arrête, quoi.
Vous avez l'impression qu'il y a une évolution, une structuration, c'est une évolution que vous avez pensée de votre œuvre au long de votre carrière artistique, ou est-ce qu'au contraire, vous acceptez les motifs récurrents d'avoir exploré un territoire en entier de façon un peu régulière?
Je commence juste.
Vous commencez juste?
Oui.
C'est-à-dire?
J'ai encore beaucoup de choses à faire, enfin, c'est difficile, je peux pas dire. Enfin, j'ai pas du tout la mesure d'une carrière, je sais même pas ce que c'est une carrière. Peut-être que je serai vieux, que je serai inopérant, ce sera derrière, ce sera le rêve, la nostalgie des bons moments passés dans le temps. Mais j'ai pas cette mesure parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apprendre. Je suis pas blasé, c'est-à-dire à chaque fois qu'on me propose un lieu, je suis content, je prends le train, j'arrive, je suis comme un gamin. Enfin bon, là cette semaine j'étais à Michelin, là, voilà, enfin, je suis pas là pour vraiment ramener le truc, la recette qu'on me demande pour la 50e fois et tout.
Il vous arrive.
De... J'ai de la ressource. Bon, peut-être qu'un jour j'en ai marre, j'arriverai plus à produire des choses. Ça arrive pour plein de raisons. Hein. C'est pas voilà. La lassitude peut venir aussi de voilà la lassitude de vivre, la lassitude d'être là, enfin j'en sais rien, enfin c'est des problèmes de tout le monde dans la vie, quoi, selon les professions, selon voilà, ça a rien. Bon, après
il vous arrive de temps à autre de reprendre d'anciennes œuvres et de les remettre dans des installations récentes. Je pense par exemple à La Nuit, qui est en 84, que vous avez réinstallé dans Mon Repos au Château. Même votre première œuvre, Le Grand Hôtel de 82, vous l'avez réutilisé.
Mais ça, c'est des pièces autonomes, c'est facile, oui. Ça, c'est des pièces qui sont montrées très souvent. La Nuit, c'est montré quasiment tous les ans. Enfin, ça, c'est autonome.
Mais comment on remet une pièce ancienne dans une installation récente?
Ou c'est une sculpture, ça, c'est une sculpture. Moi, je la refais pas. Il y a un plan précis de montage. C'est pas pareil qu'un projet in situ. D'ailleurs, il y a certains projets, enfin, beaucoup de projets que je fais sur certains types de lieux qui sont éphémères, qu'on ne peut pas refaire ailleurs parce qu'ils n'ont plus du tout leur sens sur un autre lieu. Parfois, il y a des fois des choses que je peux emprunter à des problématiques que j'ai eues dans le lieu pour faire autre chose. Ça arrive, ça, oui, bien sûr. Mais après, oui, il y a beaucoup de propositions qui restent vraiment éphémères, qui disparaissent, qui restent visibles sur les petits films qu'on fait ou les images, comme constat, quoi.
Et vous êtes sensible, Claude Lévesque, à la postérité, à la trace que votre œuvre va laisser dans l'histoire de l'art?
Non, moi, je viens de dire que non. Mais non. Mais non, parce que je ne mesure pas ça. Je ne peux pas dire. Puis il y a tellement d'artistes, tout le monde se surpasse. Enfin, il y a un brassage et tout. Rester dans la postérité, c'est quoi? Je veux dire. Après, si on met une statue de 200 mètres, voilà, sur mon scooter, on va dire tous les jours tant que ce sera là. Mais c'est, je mesure absolument pas ce truc-là. Ce truc-là m'intéresse pas du tout.
Et qu'est-ce que vous
avez? C'est les projets. Jusqu'à maintenant, c'est les projets qui m'intéressent. C'est faire des choses. Et voilà. Mais je peux pas avoir. Enfin, ça m'emmerde, ces artistes comme ça qui sont l'espèce de comme ça de gens qui ont une vision comme les surhommes et tout ça. Enfin, comme les gens à part et tout.
Les prix, vous avez refusé à la Légion d'honneur. Vous refuserez tous les prix si vous intéresse pas.
C'est naze, c'est la honte.
C'est la honte, la Légion d'honneur.
Ah oui, alors, mais ça, franchement, on me l'a ressorti, mais là. C'est un cadeau.
Puisqu'on parle de postérité, je me suis demandé en préparant cet entretien, finalement, quel est, quand on parle de votre travail, quelle est l'œuvre qui est la plus emblématique? Quelle serait-elle selon vous, Claude Lévesque?
Je ne sais rien. Je ne sais pas ça. Je vous dis, j'ai pas du tout. C'est vrai que j'ai pas du tout. Je fais difficilement des flashbacks. Il y a des choses que j'aime bien revoir. Je me dis la pensée que j'ai eue lorsque je réalisais ça. Bon. Je la revisite, je peux me réancrer là-dessus et tout, ça c'est sûr. Mais après, je peux pas dire. Chaque chose est tellement différente. J'ai toujours vécu ça avec un certain enthousiasme. Je suis quelqu'un de très enthousiaste et tout ça, donc je peux pas dire. Sauf les trucs ratés. Il y a des trucs ratés, bon, c'est raté. Mais après, tout, il y a une constance un peu dans les choses, mais emblématique. Non, après c'est plus peut-être avec le temps, on dira ça. La Nuit, c'est une marque de fabrique d'une époque de mon travail des années 80. Bon, après, il y a eu d'autres choses, je ne saurais même pas.
Le Herbert Marfaille avec Mickey, qui est aussi assez emblématique.
Oui, pour autre chose aussi. À chaque fois, c'est. Oui. Mais après, des fois, j'ai fait des projets dans des lieux perdus où les gens ne venaient presque pas, qui ont été aussi très importants dans le tournant de mon travail. Quoi. Alors, si c'est emblématique, parce qu'il y a eu une grosse concentration de médias, le truc de Venise ou je sais pas quoi, où il y en a sous le coup tous les médias qui sont là, ou un truc que je vais faire comme ça au fin fond d'un département français qui sera peut-être même plus percutant pour la réflexion que j'aurais eue, plus libre, plus c'est très difficile de faire la part des choses de ça.
Vous savez, j'ai demandé du coup à quelqu'un qui est censé avoir un regard un peu objectif sur ces questions-là de la postérité d'une œuvre ou en tout cas de sa célébrité, j'ai demandé à Google. Vous savez, quand on tape Claude Lévesque dans Google Images, quelle est l'œuvre qui ressort la première, quelle est l'œuvre qui ressort la plus et qui est la première dans la recherche d'images? C'est Le Grand Sommeil.
Ah ouais, c'est drôle, ça.
Vous pouvez nous dire et décrire Le Grand Sommeil pour nos auditeurs, qu'est-ce que cette installation?
Le Grand Sommeil, c'était un projet que j'avais fait pour l'ouverture du Macval. Et donc, j'utilisais le grand espace du Macval, qui est vraiment de très grosses proportions et tout. Et là, j'avais décidé de faire un sol de dortoir avec des lits qui étaient des faux lits, mais qui représentaient vraiment les lits, comme des lits d'hôpitaux, de lycées et tout ça. Et avec une sensation que ce plafond, enfin, il n'y avait pas de surface, c'était comme s'il y avait un ensemble de lits comme ça qui s'envolaient, qui partaient comme un tapis volant à la diagonale de l'espace de part et d'autre. Bon, ça c'est difficile à expliquer, faut plutôt le voir. Donc ces lits étaient fluorescents, donc d'un certain bleu assez immatériel. Et puis il y avait une sorte de son, comme une sorte de musique de salle de jeu, un peu la salle de jeu des pachinko japonais, assez obsédant, enfin voilà, qui était un peu l'ambiance autour, quoi. Et donc j'avais mis des boules au cadre du lit, il y avait des boules comme un jeu de boules, de boulier, de comptage du temps. Et après, au sol, il y avait des demi-sphères comme ça en plexiglas dans laquelle les boules étaient aussi recueillies. Enfin, il n'y avait pas de boules qui tombaient, mais on comprenait aussi que le comptage avait amené comme ça une certaine calcul comme ça de boules dans les demi-sphères qui étaient, il y en avait peut-être 25 au sol, quoi.
Qu'est-ce que vous comprenez, Claude Lévesque, vous, sur le fait que ce soit cette œuvre-là qui ressorte en premier, qui soit manifestement la plus populaire pour un moteur?
Ça ne savais pas du tout.
Qu'est-ce que ça vous évoque, le fait que ce soit cette œuvre-là qui ressorte?
Ah bah c'est bien, moi je suis content, non, ça va. Après, elle est spectaculaire, elle est bon. Enfin, c'est vrai que c'est elle est immédiatement identifiable, voilà. Bon, puis bon, c'était au Macval. Bon, c'est un musée que je trouve formidable, moi, qui vraiment.
Et pour conclure, un dernier mot, est-ce qu'il y a une œuvre, alors évidemment pas une installation in situ, mais une œuvre à vous, que vous avez chez vous, à Montreuil ou dans la Nièvre, dont vous ne sépareriez pour rien au monde, que vous conserveriez malgré tout et malgré des prix d'achat mirobolants?
Après, j'ai pas d'œuvre chez moi, parce que j'aime pas vivre au milieu d'œuvres, ni de moi ni des autres. Par contre, j'adore les œuvres des autres. Je vais beaucoup au musée, régulièrement. Le musée, c'est chez moi, j'adore. J'ai rien chez moi.
Alors, l'œuvre de quel autre artiste vous conserveriez malgré contre vents et marées?
Non, j'ai pas d'œuvre. J'aime pas. Je suis pas collectionneur. J'ai pas du tout cet esprit-là. Après, je trouve, il y a des collectionneurs qui ont des ensembles extraordinaires. Enfin, qui aiment ça, qui ont ce regard, J'ai rien chez moi, j'ai vraiment rien. J'ai même très peu de mobilier, enfin, c'est assez.
Spartiate.
J'ai des casseroles.
Merci beaucoup, Claude Lévesque. Merci beaucoup d'avoir accepté cette masterclass.
C'était la masterclass de Claude Lévesque avec Nicolas Martin. Attaché de production, Mathieu Maroudin. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Olivier Guérin.